Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch chaque semaine. On résume, on analyse les shows de la WWE et aujourd'hui, nous allons voir ensemble le Monday Night Raw en septembre. C'était le 7, le 8, le 7 septembre, voilà, mon calendrier est à jour. Et quelqu'un qui est à jour avec moi, c'est tonton Chris. Salut Chris.
Hola El Patron, hola peuple de Catch Up, ça va bien?
Bah ouais, tranquille, et toi, comment vas-tu?
Ouais, ça va, ouais, chaud pour reviewer ce 1424e Raw, mon gars, tu vois.
C'est le vrai numéro?
Hein? Ah oui, c'est le vrai numéro du Raw, c'est le 1424e. Et c'est ça, à chaque fois, je me dis, ça me rajeunit pas.
Ah non, le temps passe comme des voitures.
Ah ouais, ça fait du mal.
Ça fait du bien. Allez, ce qui a fait du mal, ce qui a fait du bien, c'est cette intro avec Randy Orton qui est venu... nous faire un petit segment promo hein, dans sa grosse rivalité avec le champion de la WWE, McIntyre. Randy Orton donc, qui nous explique que voilà, pour décrocher ce title shot, il a dû, que c'est un petit malin, voilà, il a dû affronter et battre Kevin Owens, Seth Rollins et Keith Lee sur sa route pour retourner en haut de la title picture. Et encore aujourd'hui, visiblement, on nous informe qu'il a un autre match contre justement Keith Lee, qui aura lieu un petit peu plus tard. Alors il le met en garde, hein. Randy Orton lui dit, écoute, à chaque fois qu'on se croisera, plus on se croisera toi et moi, et plus tu vas te prendre des coups dans la tête, donc je serai toi, traverserai, changerai de trottoir quand tu me croises. Il s'adresse ensuite à Drew McIntyre, il se demande bien, tiens, au fait Drew, comment ça va? Parce que Drew McIntyre n'est tout simplement pas prêt. Les docteurs ne lui ont pas donné le feu vert. Tout simplement, on est dans l'attente hein, de l'ordonnance de médicale de Drew McIntyre. Et tout d'un coup, pimpompin, vous le savez maintenant, le parking du stade est également le parking de l'hôpital de Orlando. Une ambulance approche. Et dans cette ambulance, il y a qui? Il y a un Écossais. Et cet Écossais, il n'est pas content. Baston, clé mort dans la tronche d'Orton. À partir de là, donc on aura une grosse série de clés morts tout au long de l'épisode. Ce sera un petit peu le fil rouge.
Miam, je trouve que la rivalité Orton-Drew McIntyre prend une tournure beaucoup plus violente. Le dernier match qui avait lieu entre eux, c'était pas fini sur un Claymore ou un RKO. Et du coup, finalement, on est resté un petit peu sur notre fin du dernier match. Keith Lee peut pas être pour l'instant dans la title picture en étant un face comme il est et comme l'est le bel homme. Et donc, de toute façon, c'est Randy Orton actuellement, pour moi, le top heel de Monday Night Raw. Et Rollins peut-être en deuxième position, tu vois. Et je trouve que c'était pas mal. Bon, au micro, de toute façon, je préfère à la rigueur avoir Randy Orton au micro que l'avoir finalement entre les cordes, où il, quand même, comme beaucoup, il m'ennuie assez prodigieusement in-ring. Mais je reconnais que là, je trouve que voilà, la rivalité prend un tournant, là, un tournant qui annonce de la bagarre. Et après, on notera aussi le travail incroyable du service ambulancier d'Orlando, hein, parce que c'est quand même phénoménal hein, comment ils bossent hein, depuis le confinement. Ces gens-là, il faut les respecter, ces gens-là. Et puis après, bah voilà, l'arrivée du Drew McIntyre, le Claymore Kick qui va bien. Voilà, il lui met après une bonne grosse série de grand end-pound, là, de bons coups de poing dans la tronche, avant qu'il y ait les arbitres qui viennent pour dégager un peu le ring, le faire dégager du ring. Donc, écoute, c'était assez efficace, c'était pas super long, donc c'était rythmé. Et c'était plutôt pas mal pour une intro de Raw qui est souvent un peu compliquée.
Ouais, est-ce que t'as pas trouvé ça un petit peu... presque l'impression de voir la fin du show, parce que finalement on nous dit Drew McIntyre, enfin est-ce qu'il viendra, est-ce qu'il viendra pas, et finalement bah il vient ça. Tout de suite quoi, l'ambulance arrive.
Ça c'est toujours le problème du choix, tu vois, dans un show de est-ce qu'on balance d'entrée pour, parce qu'on ne faut pas oublier l'audience, c'est un show télé, donc est-ce qu'on balance d'entrée de la storyline avec le titre suprême ou est-ce qu'on la garde pour le main event? Tu vois, là ils ont fait le choix, on en reparlera plus tard du booking de Raw parce qu'apparemment ça a été rock'n'roll. Ils ont fait le choix de balancer en fait le titre, si tu veux, la rivalité sur le titre suprême, déjà pour des raisons de ratings quoi. Ils voulaient accrocher du téléspectateur dans la première heure, et donc bah balancer le bel homme en ce moment, c'est quand même gage de sécurité hein, parce que moi je reste sur ma position hein, c'est un très grand champion, il ne lui manque qu'un vrai public, mais je pense que ce gars il irradie de charisme le Monday Night Raw, tu vois,
c'est il ira dire Randy
hein. Ah oui, il ira dire Randy, voilà, c'est vraiment un top babyface comme on en a pas eu depuis longtemps. Je sais pas ce que t'en penses, être patronne de ça,
mais... Ah ouais, non, moi je suis j'adore Drew McIntyre, il pue le le champion ultime, quoi, le top babyface. C'est vrai que tu dis, il lui manque plus que le public, quoi. C'est ouais, vraiment la frustration de se dire, on a là presque le mec qu'on attendait, quoi. Hein,
ouais. On peut rappeler en plus que être un champion babyface, c'est beaucoup plus dur que d'être un champion heel. Donc, il est en plus bon dans tout ça depuis le début, quoi. Et vraiment.
Ouais, parce qu'il garde ce côté bagarreur.
Oui,
un peu,
il est dangereux.
Il est dangereux, tout simplement. Voilà, il est dangereux. Il nous le montre. Bah, il nous le montrera tout au long de cet épisode, justement. Alors, il y a une petite séquence backstage après où, justement, Adam Pearce. Alors, Adam Pearce, j'ai l'impression que c'est le général manager de Monday Night Raw.
Mais ouais! On n'en est plus très loin, en tout cas.
Donc, Costar Cravate, c'est lui un petit peu qui drive toutes les rivalités, les matchs. Donc, Adam Pearce, nous explique que Drew McIntyre est persona non grata. Il n'a plus le droit d'être dans l'arène. Et du coup, ça va être un petit peu le mystère. Est-ce que nous allons avoir des surprises tout au long de cet épisode? Est-ce que nous allons revoir Drew McIntyre? Un petit peu plus tard, ou juste après, dans la foulée, à vrai dire, on a Bobby Lashley, Shelton, MVP, qui ont un match ce soir contre Apollo Crews, Cedric Alexander et Ricochet.
C'est tout à fait.
Et malheureusement, quand Cedric Alexander arrive, il se fait attaquer et du coup, Cedric Alexander n'est pas prêt pour son match. On a un match plutôt correct entre tous les belligérants.
Très court.
Mais voilà, très court, parce qu'en fait, c'est pas l'intérêt. L'intérêt est tout simplement dans la trahison de Cedric Alexander, qui attaque Ricochet, qui le balance, je ne sais plus s'il le balance dans une barricade, mais il lui fait passer un sale quart d'heure, Ricochet qui rebondit, justement, porte bien son nom, qui rebondit dans tous les sens, et donc Cedric Alexander qui offre la victoire au Hurt Business. Donc tout le monde se regarde un petit peu comme ça, à savoir c'est quoi ton jeu, qu'est-ce qui se passe, on sent que MVP est content, qu'il a réussi son coup, on ne sait pas trop encore quel va être vraiment... le positionnement de Cedric Alexander, mais visiblement il valide un peu plus tard, je crois qu'il rejoint bien le Hurt Business lors d'une une espèce de cérémonie d'introduction.
Voilà, exactement.
Où justement il explique qu'il en avait marre de ses potes qui l'ont un petit peu abandonné et que il décide de rejoindre le côté obscur de la force.
Exactement. Il y en a qui s'inscrivent à la confrérie du Roquefort et puis il y en a qui s'inscrivent au Hurt Business. Voilà, Cedric Alexander. Ouais. Et dedans, I'm in.
Et attention, le Roquefort en un mot, hein. Pas le Roquefort genre du hard metal, quoi.
Ah non.
Confondre avec le hard metal. Bon, alors, content que Cedric Alexander ait enfin compris que c'est en étant méchant qu'on avance.
Depuis 2-3 semaines, on avait bien compris que ça allait lui monter au cerveau quand même. Hein. Je pense que le garçon a juste eu un peu un travail sur lui-même à faire. Et puis voilà, une fois que c'était acté, voilà, il tourne de Cedric Alexander, peuple de catch-up. Et moi, je dis bonne pioche pour le Hurt Business qui est en train de devenir pas loin d'être le clan dominant. En plus, ils ont une ceinture en ce moment, donc c'est plutôt pas mal. Le seul truc, c'est que depuis que Bobby Lashley a pris le titre US, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais en fait, ils sont tellement dominants, les trois là, et maintenant les quatre, que du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui ose trop s'attaquer à eux, quoi. Donc voilà. Alors après, le match, il est anecdotique, hein, il dure 4 minutes. Hein. Donc vraiment, voilà, le segment important de ce six-man tag team match, c'est le heel turn de Cedric Alexander. Et le Hurt Business... devient plus fort chaque semaine.
D'ailleurs, alors c'est assez vraiment bizarre, hein, effectivement, ce booking. Je ne sais pas si ça, notamment à ça que tu faisais référence tout à l'heure, que tu disais que c'était le gros bordel, parce que finalement, on a retrouvé tous ces hommes-là dans un autre match, juste après le MVP Lounge, qui a introduit officiellement Cedric Alexander au sein du Hurt Business, qui effectivement, je crois qu'ils l'ont mentionné, hein, les commentateurs, des petits airs de Evolution. Avec, t'as un petit jeune, une légende dans la personne de MVP, plus deux costauds qui sont là. Donc, il y a ce côté-là aussi un petit peu. Mais voilà, il y a eu un deuxième match. Avec moins de prestige quand même.
Ils sont en train de monter un gros groupe afro-américain aussi. Il faut quand même le signaler dans la période dans laquelle on est quand même, qui est particulièrement délicate, je pense, aux États-Unis. On peut constater, en fait, avec la mise en avant de Big E, avec l'arrivée du Hurt Business, et c'est Cedric Alexander qui est choisi, tu vois, quoi.
Ouais.
On sent bien, là, que la WWE, là, en tout cas, ils ont l'intention de pusher un peu et de mettre en avant un peu plus leur catcheur afro-américain. Et finalement, il y en a eu à travers l'histoire de la WWE, parce qu'il ne faut pas croire que les catcheurs noirs débarquent. Mais c'est vrai que je trouve qu'en ce moment, ça se ressent plus particulièrement.
Il y a du temps d'antenne, ils sont puissants, quoi. Enfin, toi, c'est pas juste des rigolos.
Ah non.
Ils ont eu plusieurs séquences. Je crois qu'il y a eu une autre séquence où ils ont bouli un mec.
Oui, ils tabassent un gars.
Hein. T'as un pauvre gars, là. C'est gratuit. Et du coup, il y a eu ce deuxième match. Il y a eu un deuxième match qui était improvisé, hein, puisque Ricochet et Apollo Crews sont venus foutre le bordel. Voilà, les mecs sont venus foutre le bordel pendant la cérémonie du MVP Lounge. Rejoint par les Viking Raiders. Et du coup, on a eu un match qui, évidemment, a vu la victoire du Hurt Business. À noter, visiblement, je ne sais pas si tu as eu des infos, mais peut-être une blessure d'un des membres des Vikings.
Ouais, c'est confirmé, ouais, que Ivar, en fait, et en plus, c'est lui-même qui a fait direct le signe de la. De, si vous voyez les images, c'est lui qui fait direct le signe du X, quoi. Quand c'est le catcheur lui-même qui, dès après la chute, balance le X, c'est que ça ne va pas. Et donc, effectivement, ouais, donc du coup, je pense qu'il va être absent un petit moment, le Ivar, hein, ce qui est un coup dur pour Eric, quoi.
Autre fait du match, la fin. On n'a pas très bien compris ce qui s'est passé puisque Alexander place son Michinoki Driver pour le tombé final. Mais l'arbitre a fait un drôle de truc. Il a fait 1-2 et après il a allé de l'autre côté pour faire son 3. Quoi.
Ouais.
C'était un petit peu chelou, les commentateurs l'ont mentionné. Il y a eu du replay, donc on va forcément jouer là-dessus, que c'était un botch ou pas. On va forcément jouer là-dessus la semaine prochaine pour réoffrir une victoire un peu plus clean, je pense, à Cédric Alexander.
Ouais, c'était bizarre, mais bon, du coup, c'est la deuxième victoire du Hurt Business dans la soirée.
Ouais.
Et même s'il finit, effectivement, tu l'as justement dit, El Patron, hein, c'est ce qui s'est passé à la fin du match va servir de ressort scénaristique la semaine prochaine. Ouais. Direct.
Ah bah oui, non mais au moins ça se mérite là, les mecs se cachent pas en disant mais non, il n'y a rien eu.
Donc même si c'est un botch, je sais pas si c'est un botch ou je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de l'arbitre.
Bref, il a mal fait son travail, quoi. Que ce soit un botch ou pas, le mec a mal fait son boulot. Bon, comme tu l'as dit, deuxième gros match pour deuxième grosse victoire, hein, pour le Hurt Business.
Ouais, 10 minutes.
Bah voilà. Et le match était plutôt bon, hein. C'était bien enlevé, quoi.
Ouais, c'était rythmé et tout, quoi. Donc c'était plutôt pas mal, quoi. Écoute, du catch à plusieurs, comme on aime quand il est bien fait. Puis voilà, comme on l'a dit depuis le début de la review, avec un clan dominant comme l'est le Hurt Business en ce moment, du coup, ça donne du rythme. Là, t'avais des bons workers, hein. Le line-up, il n'était pas dégueulasse, quoi. Hein. C'est pas les pires mecs qui est dans le ring, quoi. Hein. Donc, quand t'as un Ricochet, un Apollo Crews, Lashley qui défonce tout, et puis Cédric Alexander qui est quand même pas mal sous-estimé. Moi, j'ai une petite affection pour ce gars-là parce que je l'ai vu en house show et face à Mustafa Ali, je l'avais trouvé extraordinaire. Enfin, j'avais trouvé les deux extraordinaires ce jour-là, quoi. Donc, comme je sais pas si toi ça te fait le même effet, mais les mecs qu'on a vus en live, vraiment. Après, quand on les voit dans les shows, on garde pour eux toujours un petit truc, quoi.
Tu vois, ils ont une petite place dans notre petit cœur de fan.
Ouais, voilà, exactement. Donc Cédric Alexander, ça me fait plaisir finalement de le voir parce qu'il est un peu pushé en ce moment. Il a un push mid-card, mais il a un push.
Ouais, voilà. Bon, après, voilà, le mec, faut qu'il travaille un petit peu son micro, quoi. On sent qu'il est fébrile, quoi.
Ah ça ouais, les promos, c'est pas encore forcément son... Mais au Hurt Business, il va pas avoir trop besoin de ça.
Ah, MVP est là pour ça, MVP, ouais, par ouais, contre, c'est un jeu vivant.
Ah ouais, autant j'ai toujours détesté le catcher contre les corps.
Ah oui, c'est une merde.
Alors lui, pour le coup, en voilà un qui était surestimé, à mon goût, quoi. Mais par contre, au micro, il y a pas de problème. Enfin, le mec, il est là, il a de la présence, il a de la voix, il a tout.
Et même Bobby Lashley était bien. On sent que Bobby Lashley il kiffe un petit peu aussi. Je sais pas s'il kiffe ce clan ou cet angle, mais il se lâche. Il était quand il se rend compte que Cédric Alexander les rejoint, il est super content. Genre, il a le grand sourire, il a la banane. Enfin, toi,
ouais.
C'est Bobby Lashley. Hein. D'habitude, Bobby Lashley, c'est une éponge, le mec. Enfin, on se souvient quand même de toute sa rivalité avec Miro, c'est assez navrant, quoi. Là, le mec est plutôt cool. Et les mecs ont l'air de bien s'éclater, quoi.
Eh ben voilà, tu vois, je pense que ce gars, Bobby Lashley, c'est tout simplement, là, il est à l'aise pour la première fois parce qu'il a été mis dans une configuration comme il était à la TNA du temps de ses runs de champion du monde de TNA, où il était, pareil, entouré de mecs et tout ça.
Ah, d'accord.
Et en bande, en clan, tu vois, quoi, le Bobby Lashley, je pense qu'il est 1000 fois plus à l'aise, quoi. Et puis, il sait qu'il est porté par le micro de MVP. Et que donc lui, il a juste à bam, balancer la barbaque, voilà. Tu vois. Et bah là, tu vois, pour quelqu'un qui suit le catch comme ça et qui voit, etc., et qui découvre le Hurt Business en ce moment, quand il regarde Bobby Lashley, il se dit ah ouais, quand même, ouais.
Ouais, lui, il faut pas le faire chier.
Alors évidemment, pour nous, les suivants réguliers, on connaît toute sa vie, son œuvre. Mais moi, je suis convaincu que cette configuration-là, elle est idéale pour Bobby Lashley à l'heure actuelle. Et il est champion US, voilà. Hein. Il a de la ceinture, hein, donc ceux qui ont la ceinture. C'est les patrons. N'est-ce pas, patron ?
Eh bien, écoute, en parlant de patrons qui ont la ceinture, on va en voir plein, là, dans un autre match qui a lieu. Direction, si tu veux bien, la division tag team. On en dit du bien, on en dit du mal, hein, la division tag team.
Ouais, c'est aléatoire.
Ouais, c'est très, très aléatoire. Tendance, allez, tendance un peu vers on en dit du mal. On va essayer d'en dire du bien, tout en en disant du mal. Il y a eu un match entre Garza et Andrade. Tu suis, c'est bon ?
Exercice de style.
Contre les Street Profits ce soir, le match numéro, toi qui tiens les comptes, doit être numéro 145e match de...
Oh là, pff, ah ouais, là, je ne sais plus à combien on en est, mais là, c'est un truc de fou. En sachant que les Mexicains n'arrivent jamais à faire quoi que ce soit. C'est un truc
c'est
de
terrible.
Fou.
Là, pour moi, il y a un vrai problème.
Il y a une malédiction, là.
Ah ouais. Il y a de l'eau dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz, de toute façon, dans cette petite faction menée par la ravissante Zelina, qui est toujours très, très impliquée dans les réussites et malheureusement les malheurs de ses poulains. Ce soir, eh ben, gros malheur, une fois de plus, qui va prendre le tombé, évidemment. C'est Andrade. Andrade, et ouais. Ça rime avec tombé. Andrade qui donc va se prendre le tombé alors qu'il est abandonné tout simplement par Angel Garza, qui voyait que le match était en train de leur échapper. C'est triste, c'est triste.
Une tristesse d'une minute 55.
en plus.
Bon, ça va, on l'évacue.
Ouais, on s'est évacué. Non, ce qui est important, c'est que juste après, Cesaro débarque.
Eh ouais.
Là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Petit entron qui s'allume dans tous les sens, Cesaro qui arrive, la musique de Shinsuke qui suit, donc ils viennent en équipe, ils représentent, ils ont leur ceinture. On nous fait référence au Brand to Brand Invitational, comme quoi...
Ouais, tout le monde l'avait oublié, mais il semblerait que ça va être remis d'actualité, vois-tu, cette affaire.
Eh ben oui, puisque visiblement, à l'approche de Clash of Champions, on commence un petit peu à se lancer des défis d'une brand à l'autre, et c'est bah, finalement Cesaro et Shinsuke qui ouvrent les festivités, puisqu'ils viennent tout simplement défier les champions d'Euro en titre, donc les Street Profits, les hommes au gobelet rouge. Vous êtes champion depuis tout ce temps, mais c'est Shinsuke qui wants the smoke. Ça se balance un petit peu des catchphrases à la tronche. Et voilà, on nous book au final, finalement, des premiers matchs champion contre champion de Clash of Champions, hein, si je dis pas de bêtises.
Eh ouais. Bon, écoute, déjà, j'étais surpris. Donc déjà, c'était une première chose. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils font là, les champions de SmackDown ? Et écoute, j'ai trouvé Cesaro pas trop mal au micro, quoi.
Sur l'échelle de Cesaro, il était pas mal.
Et j'ai bien aimé aussi la vanne de Dawkins à la fin, quoi, quand il conseille à Nakamura de passer un test de dépistage, vu le nombre de partenaires qu'a eu Cesaro au cours des dernières années, quoi. J'ai trouvé ça très bon. Voilà, c'était gras, c'était facile, mais c'était assez marrant, quoi. Et écoute, bah là, pour le coup, on est vraiment dans l'histoire du thème de Clash of Champions, quoi. Je pense que t'es d'accord.
Alors ceci dit, je me corrige, puisque je crois que Cesaro a dit que c'était pour la semaine suivante, hein, la semaine prochaine, le match.
Ah, c'est pour la semaine suivante, c'était pas. Ah, bah moi aussi, tu vois, sur le coup, j'ai compris.
Bah évidemment, surtout qu'on commence à nous balancer les pubs pour Clash of Champions.
Eh oui.
Et les mecs arrivent, tu dis bah ouais, champion contre champion, et Cesaro nous dit non, c'est la semaine prochaine. Non. Évidemment, peut-être que le match n'ira pas au bout et qu'on les retrouvera à Clash of Champions.
Ouais, c'était un peu bizarre. Ouais. C'est vrai que c'était assez surprenant, quoi. En tout cas, Street Profits versus Cesaro Nakamura, je dis pourquoi pas.
C'est frais. Puis c'est bien, on voit Cesaro qui est un petit peu le ring général de tout ce bordel, en fait, finalement. Hein. Cesaro qui prend un petit peu qui prend ses fonctions de manager, un petit peu, toi, responsable local des divisions tag team.
Ouais, et puis Cesaro, on peut considérer que de toute façon, c'est le meilleur catcheur par équipe de la WWE depuis des années, quoi. C'est le tag team spécialiste par excellence. Dorénavant, c'est devenu un peu sa gimmick, mais il le tient bien. Et pour la première fois, là, il est dans une équipe où c'est lui qui tient le micro. Et voilà, et du coup, et il est champion, et il enchaîne, et maintenant, il vient défier les Street Profits. Vas-y, Cesaro, vas-y.
Est-ce que Little Jimmy t'a manqué ?
Alors ça, un peu moins ça.
On a revu les Jimmy qui mangeaient au restaurant avec R-Truth. Ils se sont fait attaquer par une bande de ninjas, voilà, qui ont essayé de lui choper la ceinture, mais ils n'ont pas réussi.
Eh oui. Raté.
Bien tenté, mais raté. Ah, une tristesse absolue. Peyton Ross contre Billy Kay.
Voilà. 2 minutes 45 de tristesse, hein. Je spoil direct. Hein.
J'étais pas là, quoi. Elles ont été séparées. Hein. C'était dans un weekly.
C'est vrai. Oh.
Et visiblement, on les a obligés à s'affronter. Elles ont chacune maintenant leur, leur musique, leur nouveau gimmick.
Leur tenue.
Peyton Ross, j'ai l'impression qu'elle a perdu 20 kilos, qu'elle est devenue toute blanche et elle ne se ressemble plus. Le match était sans âme. Et à la fin, victoire de Peyton Ross qui relève sa copine et elles se font un câlin. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Autant qu'il est faible qu'en vrai, je pense que ces filles, elles kiffent pas du tout là, ce qui est en train de se passer.
Non, mais ces filles, elles sont sous antidépresseurs là. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait comme saloperie là? Alors là, par contre, hein, ça c'était laid, hein, franchement. Mon pauvre IRM, hein, franchement, moi, genre, à la limite, pleurer, quoi. La fin, c'était. Je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Là, les deux nanas, elles sont en fait complètement déprimées. Ça...
Éteintes, envahies.
Ouais, faire un segment pareil, ça les a bouffées, quoi. Ça n'avait ni queue ni tête, c'était cette séparation et ce fait de faire ce combat-là pour finalement, voilà, espèce d'entériner, cette espèce de speed qui de toute façon était entérinée, parce qu'il faut voir ce que BDK avait pris à Raw Underground, je crois la semaine dernière ou il y a deux semaines, tu vois, je sais pas si tu l'avais vu. Donc, tu vois, c'était inutile ce segment, c'était inutile et c'était un match inutile. Alors là, vraiment, je n'ai pas compris, quoi. Carton, comme dirait Papy, dédicace à Papy, carton orange, pas loin, hein.
Ah oui, oulala, et on sent les.
Ah ouais. Les couleurs. Ah, moi, j'ai pas du tout aimé ce segment, quoi.
Bon, bah, alors, quelque chose qui a dû se faire un petit peu plus plaisir, j'espère, c'est le segment qui a suivi avec la famille, la familia. Mysterio qui est au grand complet. Il y a même la petite dernière, la sœur de Dominique, qui est là.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Pendant tout l'épisode, je me suis demandé si c'était sa sœur ou si c'était sa copine. Et à la
fin,
c'est sa sœur. Officiellement, c'est sa sœur. Bon voilà, tout le monde est fier de Dominique, c'est une star de seconde génération, et ce soir il affronte Buddy Murphy, qui lui par contre est un peu en disgrâce, hein, vis-à-vis de son messie, donc il doit faire ses preuves, hein, le disciple, donc il a un match ce soir qui est booké contre le fiston Mysterio dans un street fight match.
Qui catch tous les lundis dorénavant le Dominique.
T'as vu ça? Hein, c'était pas un one-shot. Hein.
Eh non.
Il fait partie des gars, quoi, des boys.
Eh ouais, des new boys on the block.
Et du coup, bah, il accepte le défi de Buddy Murphy, ou plutôt juste Murphy, qui sera du coup notre main event un petit peu plus tard. Donc, on se garde le match pour tout à l'heure.
Dominique est dans le main event d'Euro.
Tout simplement.
Voilà, en toute simplicité.
On retourne division féminine. Asuka et Mickie James, comme vous le savez, ou peut-être pas, auront un match. Mickie James va défier Asuka, je ne sais pas quand d'ailleurs, j'ai pas le planning pour le titre. Est-ce que c'est à Clash of Champions? Est-ce que c'est la semaine prochaine?
Je suis comme toi, la WWE a oublié de m'envoyer le planning.
En fait, ils ont tellement pris l'habitude d'avoir un pay-per-view toutes les deux semaines qu'ils ont booké des matchs de championnat pour la semaine prochaine en pensant qu'il y avait un pay-per-view, mais en fait, non. Est-ce que je peux être honnête avec toi?
Tu peux.
À catch-up, on est honnête entre nous, on se dit tout. J'ai zappé ce match, hein. Est-ce que j'ai bien fait?
Ah, t'as zappé ce match, t'as carrément fait un zapping, un fast-forward.
Ah oui, j'ai l'impression que ça n'a pas duré très longtemps.
Ça n'a pas duré très longtemps, effectivement, ça a duré 4 minutes 50, c'était absolument sans intérêt. Voilà, tu sais, voilà, quand on fait les fameuses tags entre les deux qui vont s'affronter bientôt, de toute façon, donc même au niveau masculin, c'est pas forcément génial. Et puis un match sans intérêt, ouais, Lana dans le ring, hein, déjà, hein, mon bon patron, hein, Lana dans le ring, quoi.
C'est assez triste. Bon, victoire d'Asuka et Mickie James, évidemment, avec Lana qui abandonne. Est-ce qu'on a profité de ce match pour monter un petit peu la sauce, la mayonnaise là, entre les deux ou pas, Asuka et Mickie James?
Ouais, un petit peu, mais le problème en fait, c'est qu'ils sont un peu coincés. Je crois qu'avec Asuka, ils sont obligés de faire une feud de transition, là, tu vois, parce que Nia Jax et Baszler sont dans la tag team division. Il n'y a pas pour l'instant une fille, tu vois, dans le roster de Raw qui est vraiment capable de venir chercher Asuka au niveau où elle est depuis le début de l'année, enfin, ou depuis qu'elle est à la WWE, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est compliqué, il aura fallu trouver, et t'as vu, ils nous vendent ça avec Mickie James, 6 titres, tu vois, Michael Cole, il nous l'a répété, Mickie James, 6 titres, nanana, ancienne former champion, tatati, tatata, voilà, on essaie de nous la rendre un peu dangereuse pour Asuka, quoi, mais Asuka, elle paraît tellement pouvoir la bouffer au petit déjeuner que, voilà, on sait tous à peu près la finalité de cette feud-là, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui va arriver après, derrière Mickie James face à Asuka.
Tu l'as peut-être cité, c'est peut-être une des deux que tu as cité juste avant.
Baszler ou Jax?
Je ne suis pas certain que leur règne va durer forcément très longtemps, Nia Jax et Baszler.
Ah ouais, oui, tu n'as peut-être pas tort.
Justement, lié au fait que l'absence de Challenger et qu'on nous a déjà un petit peu... on va dire, teasé sur ces affrontements-là, notamment le Baszler versus Asuka, qui a été teasé déjà il y a quand même un petit bout de temps, bien avant leur prise de titre tag team.
D'accord, ouais.
Bon, c'est pour dans pas longtemps. Après, ils vont peut-être mettre une Natalia, peut-être sortie de nulle part, s'il y a besoin encore de faire un match de championnat de transition. Mais c'est vrai que, comme tu le dis là, la profondeur du roster en qualité...
Chez les filles, à Raw, c'est dire, j'ai envie de dire qu'à SmackDown, c'est dur aussi. Pour moi, voilà, c'est mon avis, mais la division féminine de NXT est la meilleure à la WWE actuellement, quoi.
Ce serait peut-être le moment de faire monter effectivement des filles, quoi.
Et ouais. Donc du coup, si tu veux, voilà, je pense que là, il y a une opportunité justement. Bon, mais justement, on arrive dans une bonne période que tu aimes bien puisque tu l'as vécu en live. Mais on va arriver au mois de novembre, les Survivor Series, tout ça, les arrivées, les combats à beaucoup de catcheurs.
Des matchs 5 étoiles.
Voilà, des matchs, des 4 contre 4, des elimination match. Donc écoute, peut-être que ça va être l'occasion cet automne de voir débarquer un peu des nouvelles têtes.
On va rester à la division féminine, comme ça on va débarrasser de ça. Disons qu'on a parlé de Baszler et de Nia Jax, ce serait dommage de parler.
Ouais, c'est vrai.
Ce soir, alors ça c'était. Oh là là, mon Dieu. Donc il y a eu 2 matchs ce soir. Baszler contre Riott et Morgan, suivi de Nia Jax contre Riott et Morgan. Vous l'aurez compris, c'était 2 handicap match. Finalement, la petite surprise, c'était que le Riott Squad s'en est tiré en gagnant le premier match, tout simplement.
En 2 minutes 30, quoi, quand même. Quoi.
Donc, voilà, assez particulier. Et surtout, après, on a eu le match de Nia Jax qui s'est terminé en no contest.
En 3 minutes.
Voilà. Donc, rien à signaler à ce niveau-là. Je pense qu'on peut tourner la page et enchaîner sur ce qui s'est passé justement. Pourquoi il y a eu nos contests, mon bon tonton ? Parce qu'il y a eu rétribution. Il y a eu rétribution et rétribution, ils ont un logo. Est-ce que c'était la première fois qu'ils avaient un logo ?
C'était la première fois. C'était la toute première fois qu'enfin, il y avait quelque chose qui les signifiait sur le ring.
Donc j'imagine qu'on peut aller maintenant sur le shop de la WWE pour avoir un t-shirt officiel d'une faction illégale.
Voilà.
Qui veut tout retourner le système WWE, puisque visiblement, ces gens-là ont des revendications, puisqu'ils ont adressé un message en vidéo, masqué, voix détournée, en nous expliquant que la WWE, c'est toujours la même merde depuis le début, que eux, ils veulent juste tout détruire, tout simplement, ils veulent détruire le système, finalement, pour en bâtir peut-être un nouveau, hein, je ne sais pas. Qu'ils ont laissé tomber des gars qui ont été mis sur le bas-côté, quoi, et que du coup, eux vont venir pour détruire tout ce qui reste du WWE univers.
Voilà, qui sont rétribution et qu'ils vont détruire toutes les superstars une par une. Quoi.
Une par une.
Une espèce de menace par un gars qui est beaucoup plus grand que les autres. Il y a enfin des gabarits à Retribution, parce que si tu veux, je sais pas, ça a été un petit peu le problème avec Papy, on en a bien rigolé pendant plusieurs lundis. Quoi.
Oui, disons qu'ils ont depuis 1 ou 2 semaines, ça y est, ils ont des grands. Quoi.
Ouais. C'était vraiment un peu crevette time quand ils arrivaient, quoi. Tu disais, ah bah tiens, il y a 12 Drake Maverick qui débarquent.
Ouais, on va tout détruire.
Salesforce, ça, ouais.
Excellent.
et du coup, là, tout d'un coup, effectivement, depuis la semaine dernière, il y a du gabarit qui est arrivé, quoi. Et bon, le mec qui a parlé, là, il avait l'air d'être vraiment pas content. On n'est pas content, on va tout casser. Et comme tu dis, ça me fait marrer. Effectivement, derrière, tu as du merchandising WWE sur un clan illégal. Ça, c'est un peu comme l'histoire de Che Guevara. Quoi. C'est-à-dire que Che Guevara, c'est le mythe absolu, mais que le capitalisme a récupéré en mettant sur des t-shirts. Et maintenant, c'est le truc le plus vendu au monde. Quoi, tu vois. Enfin, donc, le rebelle le plus emblématique, on va dire, des années 60 se retrouve en fait une figure de merchandising.
Quand l'antisystème devient le système.
Exactement. Oh là, on commence à devenir philosophe ou je ne sais quoi, mais ou sociologue.
tu vas me resservir un petit demi, Roger, s'il te plaît.
Ouais. Allons-y. Alors, écoute, en tout cas, ils s'affirment. Là, ils n'ont pas pris l'option « je détruis tout ». On a un peu coupé les lumières, on a éteint le Thunderdome. On fait une première revendication, une première promo. Bah écoute, j'ai envie de dire, voyons la suite. On remarquera par contre qu'ils n'apparaissent plus du tout à SmackDown.
Ouais, bah ça c'est effectivement, ça a l'air entériné. Ils veulent détruire l'univers WWE, mais d'abord le show rouge. Okay. Parce que finalement, ils veulent tout détruire, mais effectivement, ils apparaissent gentiment une fois par semaine pendant les heures de diffusion, pendant le show rouge, la WWE, et puis ils vont tranquillement.
Et ils cassent des trucs, mais pas trop quand même, quoi, parce qu'il faut que le show puisse continuer derrière à chaque fois qu'ils apparaissent.
Moi, je les imagine bien, une fois qu'ils ont rendu l'antenne, ils reviennent et puis ils remettent tout en place. Hein.
C'est les redises, en fait, du show, tout simplement. Les mecs, ils viennent remettre les fly cases et tout. Voilà, c'est parti.
Elle était comment, il était comment ce banc, déjà? Vas-y, Anne, tu peux m'aider à le porter, s'il te plaît. Les mecs, essayent avec leur cagoule et tout. Bon, allez, on va aller dans les profondeurs d'Orlando. Direction Raw Underground, c'est toujours le bordel, ouais. C'est toujours managé par le fils du patron. Mais ce soir, il y avait une belle affiche quand même, puisque Kevin Owens rendait des comptes avec Aleister Black dans un combat qui en plus était coupé par des pubs. Alors, c'est pareil, c'est du Raw Underground. Alors, donc, tu imagines ça, un truc sans règles où les mecs n'en font qu'à leur tête, mais en fait, il y a des horaires, ils respectent les pages pubs. La chaîne McMahon qui rend l'antenne et tout. J'étais là, mais ils nous ont tout fait, quoi. Ils nous ont tout fait. C'est... Ah oui, et cette fois, Raw Underground est sponsorisé cette semaine par Wendy's.
Ouais, alors que c'est vraiment un segment qui dure, mais c'est hyper rapide, quoi. Donc tu te dis qu'ils se permettent de le couper avec de la pub, alors que déjà, c'est un truc qui est déjà quand même presque anecdotique dans le show, j'ai envie de dire.
Ouais. Le match n'ira pas jusqu'au bout, puisque ben, c'est notre footballeur polonais, si je ne me trompe pas. Qui est intervenu là, Bako là,
beaucoup. Dabakato.
Babakato, le fameux footballeur polonais.
ouais, qui était pas content.
Qui était pas content et qui a tapé sur tout le monde et puis ça s'arrêtait là. Je crois on a rendu l'antenne avec Bako ça, du ring quoi.
Ouais, non, mais vraiment un truc complètement expédié. Alors là, voilà, on aurait eu un petit peu d'interaction avec Kevin Owens et Aleister Black, bien sûr, mais voilà, après le géant, là, est rentré. Alors moi, le truc que je dis tous les lundis en ce moment, c'est je veux voir le videur de Raw Underground en slip sur le ring. Voilà ce que je veux de Raw Underground.
Ah là, on l'a vu, mais il n'était pas en slip.
Eh ouais, il est jamais en slip, il est en tenue de videur, tu vois, quoi. Mais lui, je veux le voir en slip sur le ring.
Mais oui, qu'il vienne et puis qu'il... Toi, genre, ça part en couille et puis ils sont obligés de le faire intervenir et puis, toi, il nettoie tout le monde, quoi. Ça, ce serait...
Putain, moi, je suis Earth Business. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. MVP, moi, je suis MVP. J'arrive devant la porte du Raw Underground, je vois le mec, là. Je me dis, mec, tu vas venir chez nous.
Bah ouais, qui à l'entrée, ils ont le VIP lounge, le mec, il a le profil, c'est bon.
Et à chaque fois qu'ils sont descendus à Raw Underground, le Earth Business, ils ont démoli tout le monde. Donc quand ils débarquent là-bas, c'est les patrons, quoi.
J'allais dire, avant qu'on arrive au main event, on y arrive, hein, ne vous inquiétez pas, la famille Mysterio va pouvoir bientôt se venger. Mais avant, on a eu enfin le match de Kisley versus Randy Orton, hein, on en a parlé au début du show. Kisley versus Randy Orton qui partage un ring pour la troisième fois hein, en deux semaines. Un match plutôt costaud hein, entre les deux, avec Kisley qui bouffe de la barricade, Randy Orton qui étrangle son adversaire. Orton qui parvient au bout de la deuxième ou troisième fois à placer son RKO. Malheureusement, il n'a pas le temps de placer son tombé puisque Drew McIntyre est là et place une Claymore out of nowhere.
Bang, bang, bang!
Il lui susurre à l'oreille « I want you to see me in your dreams ». Puis il lui renifle un gros glaire à la tronche. Et puis il s'en va. Avant de lui refoutre un Claymore King un peu plus tard dans le backstage.
Mais oui, il est comme ça le bel homme. Il est comme ça le psychopathe écossais.
Un partout. Balle au centre. Et Kisley qui fait un gros dodo. En attendant la semaine prochaine.
Ouais, et puis pour Kisley, c'est pas très grave. Il a perdu le match par DQ. Donc c'est très bien, moi j'adore quand Drew McIntyre il distribue comme ça. Mais j'aime bien parce qu'il s'en va et en même temps il se fait engueuler par Adam Pearce.
Ah oui, oui.
Il est en mode, mais ouais, mais vas-y, dégage.
Mais bien sûr que t'as raison, mais bon voilà.
Et en fait, Adam Pearce il est encore impliqué en coulisses parce qu'après, Orton il lui demande où il est, quoi. Tu vois, parce il dit ouais pas de problème et tout et bam.
oui parce que il lui fait mais attends moi je te crois pas t'es Adam Pearce mais avec tout ce que tu dis j'en crois pas une miette et il a raison parce que 2 minutes après ouais. Il se fait agresser.
Bah ça tu vois j'ai trouvé ça c'était bon quoi, j'ai trouvé ça excellent quoi, tout ça c'était bien, voilà, c'était bien enchaîné. Le match il dure 6 minutes hein, tu vois, c'est Mais c'est vrai qu'après, bah, tout ça, ça s'enchaînait bien, quoi. Et voilà, et Adam Pearce, excellent sur ce segment.
Il fait partie des points forts de Monday Night Raw. Je ne dis pas qu'il faut regarder Monday Night Raw pour Adam Pearce, mais ce serait dommage.
Ah, mais en tout cas, et sur ce lundi, il a vraiment pris un personnage, là. Il l'est depuis plusieurs lundis, on le voyait de plus en plus. On l'a même vu un petit peu à SmackDown, il y a quelques semaines de ça en arrière, c'est là, ouais. Et puis après, et depuis, il est sur Raw. Et il a plus bougé, et là, de lundi en lundi, il a de plus en plus de segments, de plus en plus de micros, donc c'est intéressant. Je crois qu'à Catch-Up, on se plaint depuis longtemps qu'il n'y ait plus de General Manager.
Ouais.
Et avoir une espèce de figure d'autorité comme lui, et bah, pourquoi pas, parce qu'il est, il me semble efficace, quoi, ce garçon.
Voilà, des fois, il essaye, il n'y arrive pas, mais il faut dire que ce n'est pas évident, personne n'écoute.
Eh ouais, on est au catch, hein, donc quand t'es le general manager, parfois c'est compliqué, hein, même Kurt Angle ou Daniel Bryan, ils peuvent en témoigner, quoi. Hein,
donc, oui, parce qu'au final, tu te fais virer assez rapidement. Donc.
Ouais, en plus, c'est un poste qui tient pas la route, quoi.
Ça, ouais, c'est sur un siège éjectable.
Ah ouais, là, t'es dans un CDD à l'américaine.
Bon, bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour avant le gros main event.
Ah, on a dit juste un mot.
Un mot, un seul.
Non, deux, juste deux mots alors. Parce qu'on n'en a pas parlé, donc je vais juste dire.
Vas-y, qu'est-ce que j'ai oublié encore ?
Bonjour Charlie.
Ok. C'était la minute Tinder.
Et oui, parce que Charlie, elle était en interview aussi avec, parce qu'on a parlé de Orton et tout ça, quoi. Et c'était le segment. En fait, je me dis, merde, il y a un truc qu'on a oublié dans le segment, quoi. Et c'est que Caruso, elle est en interview avec Randy Orton sur la toute fin. Et,
disons en fait, qu'on en a parlé, mais on ne l'a pas mentionné.
On ne l'a pas mentionné, voilà.
Et donc, c'est là où elle a apparaît. Je pense que c'est ça qui t'a gêné.
Pour la nouvelle Claymore, et que du coup, après, la vipère est emmenée à l'hôpital. Quoi.
J'aime bien, c'est que tu as réussi à transformer le fait que je n'ai pas mentionné le nom de l'intervieweuse. Tu as transformé ça en genre, Yerem, t'as oublié un gros segment phare de l'épisode. Il y avait un truc avec Charlie, là. C'est quoi déjà, elle a une storyline en ce moment, c'est quoi?
Oh, ça fait plaisir d'être devenu.
Je crois que la storyline, elle a catch-up, hein, elle n'est pas la WWE.
Là. On est chaud avec le patron aujourd'hui, on est chaud.
Chaud comme la famille Mysterio, hein. Arriba, oh. Arriba, viva la piñata. La piñata ce soir, bah, c'était Buddy Murphy.
Ça commence fort.
Bah, c'est ce qu'on s'est dit, hein, en rentaine avant qu'on commence, c'est putain, Buddy Murphy. Oui.
Il fallait peut-être pas dévoiler au peuple de Catch-Up nos propos en rentaine, mais,
non,
mais bon, on vous lâche tout. On vous dit tout, comme tu as dit tout à l'heure.
Ben oui, Buddy Murphy, donc, qui va, voilà, veut retrouver les bonnes grâces de cette Rollins, qui était parfaitement absent cette semaine. Et ça a commencé fort, puisque donc, Dominique est là, accompagné, escorté par la famille, donc le papa, la maman, la sœur, tout le monde est là avec les kendo sticks, hein, pour se protéger les uns les autres, puisque Buddy Murphy a tout simplement mis une pièce sur la tête de la famille Mysterio, et ça, c'est un jeu un petit peu dangereux.
Oh que oui.
On a un street fight, gros coup de genou de Buddy Murphy d'entrée de jeu. Alors, j'ai adoré, le match est parti à 100 à l'heure. Et après, bah, on s'est tout simplement mis sur la tronche dans des séquences incroyables. Notamment, alors ça c'est un peu après, on arrive un peu vers la fin du match. Mais j'ai adoré ce segment quand Dominique a fait un slide, bah, tel son père, et qu'il a glissé jusque Buddy Murphy, qui l'a retourné pour l'éclater contre la table.
Ah ouais, ouais.
Aïe, 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 caramba, ça c'était assez incroyable. Et tout ça s'est terminé par une mise à mort. assez violente, la fameuse séquence piñata, où Buddy Murphy s'est retrouvé attaché aux cordes, et que, bah, à tour de rôle, les membres de la famille Mysterio ont tout simplement explosé les kendo sticks sur le corps du pauvre disciple, hein, Buddy Murphy, qui était obligé d'abandonner, hein, tout simplement, et qui n'aura pas réussi à remporter finalement ce match. Hein, je ne sais même pas comment. Oui, parce qu'il abandonne, il abandonne. Il a dit c'en est trop.
Il abandonne, c'en est trop.
Faut dire après.
Je crois même, l'arbitre aussi, il fait sonner la cloche parce qu'il voit bien que ouais. De toute façon, là, c'est fini.
Mais en tout cas, c'était un sacré match. Ils se sont allés pas partout à travers le stade, mais voilà, on s'est balancé par-dessus la barricade, on s'est mis des énormes coups de kendo stick. La famille était impliquée à divers moments.
Avant le segment de fin, effectivement, il y a eu un gros match, il y a eu 15 minutes de match quand même, quoi. Donc avant le segment piñata, il y a vraiment eu un truc, un gros match, un gros street fight en main event d'Euro.
Ouais, non, mais rien que je lui dis, voilà, rien qu'à, voilà, la cloche a sonné, Murphy il arrive, il met un énorme coup de genou,
bam!
Après, voilà, Murphy avait un petit peu le contrôle, il menace, évidemment, il y a plein de rappels à la rivalité, puisque l'œil de Dominique a failli y passer, évidemment. Murphy, bah voilà, il a pris la chaise, il a tabassé Dominique avec une chaise, Rey Mysterio était là un petit peu pour protéger, aider un petit peu son fils, j'arrive, je viens pas. Tout ça était vraiment super bien foutu, on a eu des descentes du coude, c'était un match super solide. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que ça fout en main event, ça?
Ouais, ça, c'était surprenant, ouais.
Et finalement, bah écoute, je suis arrivé à la fin, j'ai fait, ok, les mecs, ils ont mérité leur spot, parce que c'était franchement le match le plus divertissant de la soirée, et qui s'est terminé vraiment par un gros beatdown, en plus, parce qu'ils ont continué le passage à tabac, non, même après la fin du match.
Ah mais oui, non mais après derrière là ça a été l'orgie quoi.
Mais attends mais oh, bah, paye tes babyface toi. Alors bon ils ont été malmenés quand même. Mais bon.
Ah, la familia de babyface, ouais. Oh là, les technicos comme on dit au Mexique quoi. Oh, incroyable ce final quoi. Alors, on en a parlé en antenne un peu pour le catch-up, mais moi je vous le dis, moi j'étais par terre direct, hein. Moi j'ai eu, parce que voilà, masque, Mysterio, Mexique, tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec le mec? S'ils s'en servent comme une piñata, ils veulent qu'il explose, et puis s'il explose, ça va causer un problème, là, c'est pas très PG tout ça, c'est un peu trop hardcore quand même les gars, quoi. Non mais arrêtez, à 4 ou plus au Kendosti, oh le Murphy, mais oh, comment il a dû rentrer au vestiaire, mais le gars, il est fracassé pour 3 jours, là, il peut plus marcher, quoi. Incroyable ce segment de fin. C'est la rage des mystérieux, comme tu dis, quoi, des babyface, quoi, mais qui étaient enragés.
Oui, parce que même, alors, j'adorais la séquence où Rey Mysterio invite. Alors, la sœur de Dominique n'a eu aucun problème. Elle était chaude bouillante depuis le début.
Elle était à l'aise, ouais.
Elle tenait le kendo stick en mode batte de baseball depuis. Ça l'a démangé. Donc, quand on lui a dit vas-y, c'est bon, elle s'est défoulée. Après, Rey Mysterio qui donne le kendo stick à sa femme, et puis elle est là, non, mais je veux pas le taper. Puis après, finalement, elle participe. C'est des tarés, hein, les Mysterio, quand même, non?
C'était un segment.
Et Mysterio qui s'adresse, je crois, qui fait du trash talk à la caméra en s'adressant.
Mais oui. Non, mais lui, il était hyper vénère. Ouais. Il montait sur Turnbuckle. Il parlait.
Payback is a bitch.
Okay. Ouais, payback is a bitch. Ouais. Non, mais c'était fou ce segment. Mais moi voilà, là, je suis client, moi, là, genre de truc. Voilà. Mais vraiment, ce segment piñata, parce que je vois pas d'autre nom à lui donner, quoi. C'était incroyable. Le pauvre Murphy, vraiment, je compatis. Respect à Murphy, quoi.
Ah ouais, respect. Là, il a gagné sa place au vestiaire. Il a son cintre.
Ah ouais, non, là, je pense que c'est bon dans le locker room. Il va devenir dorénavant un habitué.
Bon, bah, c'est sur ce déluge de violence familiale que c'est terminé ce show.
Waouh, c'est vrai que, waouh, quand même, tu te dis, quand ça se cut. Tu dis « Ah ouais, quand même, je viens de voir ça, là
!» Allez, c'est l'heure du mot de la fin, si tu veux bien, mon tonton, ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Eh ben, écoute, il y a eu des trucs très mauvais dans ce Raw, mais il y a eu pas mal de surprises et plein de trucs que j'ai trouvé super bons. Donc, je suis assez embêté, mais mon flop, il est d'office. De toute façon, je le donne au segment Peyton Rose Billy Kay, parce que vous réécouterez ce que j'ai dit il y a quelques minutes, mais voilà, vraiment pour moi, ça a été un segment triste, voilà, tristesse, sadness. Non, et puis non, ça allait pas, il n'y avait rien qui allait, ni dans le combat, ni dans le comportement des filles. J'aime pas avoir des catcheuses sous antidépresseurs. Donc, berk, carton rouge,
ouais.
Flop. Et mon top, bah écoute, mon top, on vient d'en parler, mais mon top, je ne peux pas ne pas. J'aurais pu le donner à d'autres trucs, hein. Franchement, il y a d'autres trucs qui m'ont plu dans ce. Voilà, toute l'interaction Orton-Drew McIntyre tout au long du show, la présence d'Adam Pearce, la domination de Hurt Business, mais ce main event, quoi. Ce 15 minutes de Street Fight avec ce final en festival piñata, moi je dis bravo. J'ai dit, voilà, comme je l'ai dit, quand ça a cuté, j'ai fait exactement comme je vous le fais là, peuple de catch-up. Et donc voilà, c'est mon top et ma note. Et ben, je vais lui mettre une bonne note à ce coup, malgré les trucs que j'ai pas aimés, les trucs que j'ai trouvé trop faibles, les choses comme ça, parce que je vais lui mettre un 3 étoiles à ce 424e Monday Night Raw.
Ok, bah écoute, c'est vrai que finalement, à quel point le bon a tiré le mauvais vers le haut, ou est-ce qu'à quel point le mauvais a tiré le bon vers le bas. C'est un peu tout le dilemme des Monday Nitro finalement.
Eh oui.
On passe de 2 à 3 en permanence.
Oui, et puis je suis sûr que tu auras des suiveurs qui de toute façon n'auront peut-être pas du tout aimé quoi. Donc, mais là pour le coup, moi ils ont réussi à m'embarquer dans le truc. Ils ont livré quelques bons matchs avec un peu du temps entre les cordes. Toutes les storylines, j'ai trouvé, voilà, les bons, les filles, tout ça, c'était super faible et tout. Il y avait des trucs qui allaient pas, comme souvent tous les lundis. Mais tu vois, avec ce finish, quoi, parce que c'est tellement important pour moi le main event dans la perception du show.
Ouais.
Quand ça cut comme ça et que je suis un peu soufflé, que je suis un peu, et ben c'est que ils ont un peu réussi leur truc. Quoi.
Ouais, ouais. Non, là-dessus, un excellent main event. Allez, du coup, honnêtement, mon flop et mon top. Officieusement, c'est les mêmes que toi, mais je vais donner un petit top coup de cœur. On en a beaucoup parlé aussi au Hard Business, comme tu l'as dit. Ils ont été un petit peu les cadors de cet épisode, en fait. On les a vus quasiment à chaque... Toutes les demi-heures, il y avait un segment avec le Hard Business et, qui a monté en puissance avec cette nouvelle recrue. Je trouvais ça vraiment, vraiment bien, bien foutu, avec vraiment une grosse domination de ce clan. Et mon flop, mon vrai flop, en fait, je vais quand même le donner, je vais le faire comme toi. C'est ce crève-cœur, la tristesse absolue de Billy Kay et Peyton Ross. J'étais juste triste, vide. Ça m'a rempli le cœur de vide, cette séquence. Parce que j'ai toujours eu beaucoup de
d'affection.
D'affection, oui, voilà, d'affection pour ce duo qui, finalement, parti d'NXT, avait tout pour réussir dans la division tag team.
Et oui.
C'est pas parfait, mais elles avaient une vraie équipe, elles avaient une vraie identité.
Petit repackaging, peut-être sur le look, tout ça, pour les rendre peut-être un peu plus dark. Et puis, il y avait de quoi, en fait, garder encore une équipe des filles. Qui tenait la route, quoi.
Qu'est-ce qui les motive backstage à splitter des équipes comme ça? On voit ce que ça a donné pour la Riot Squad au final. Se trouve, dans 6 semaines, elles vont retourner ensemble, hein, ou une des deux se fera virer, ou les deux aussi, peut-être.
Ouais, mais apparemment, il se dit aussi dans les coulisses qu'on y voit un avenir en solo à Peyton Royce, quoi.
Oui, évidemment, évidemment. Mais bon.
Et ça fait toujours au détriment, malheureusement, de l'autre. Et voilà, quoi. Donc, c'est au détriment de Billy Kay. Mais c'est un peu dommage. Moi, je trouve pas que ça tombe à point nommé en plus.
Ouais, voilà. On aurait pu prendre un peu plus de temps. C'est un peu... Ils sont venus gâcher la fête. Hein. C'est vraiment comme tu fais la fiesta, il y a quelqu'un qui vient qui fait la gueule dans son coin, là. Qui met sa musique, qui change la musique, la playlist, là, qui met un truc qui est triste, là, qui fait chier tout le monde. Non, c'est nul. Allez, nous, on était là pour la fête, on était là pour péter de la piñata. Allez, je vais te suivre un petit peu aussi. Je vais mettre 2,75 pour cet épisode, notamment pour ce gros main event là qui était magique. Hein. Franchement, on veut voir ça, de la violence et des confettis. Voilà ce qu'on veut.
Formidable. Un titre tout trouvé pour la review.
Bon, et eh ben écoute, c'est l'heure de se quitter. Mais avant ça,
un petit mot. Je te dis juste le petit mot, c'est sur les audiences parce qu'on en a pas parlé.
Ah oui, alors quels sont les chiffres?
Et les chiffres en fait sont pas bons.
Ah merde.
Et comme depuis des semaines et des mois, hein, j'imagine que tu sais bien que de toute façon là les ratings, hein, même à SmackDown de toute façon, hein, c'est
ouais,
mais SmackDown
tient
mieux, quoi, ça tient mieux.
J'avais entendu qu'il y avait eu un petit boost grâce au Thunderdome et puis peut-être au retour du Big Dog.
Ouais, mais là pour le coup ils ont fait la pire audience depuis le début du Thunderdome et ils ont fait 750 000, quoi, donc ils sont bas, 1 700 000 de toute façon, c'est une fourchette très basse, quoi. Et ils ont beaucoup de gens qui ont quitté la troisième heure. Et donc ça qui est toujours un gros problème aux États-Unis, la troisième heure. C'est comme si tu quittais un peu un match de NBA au quatrième carton, quoi, tu vois. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc ouais, des audiences quand même très faiblardes.
Ouais. Bah, ils savent pas ce qu'ils ont manqué, ces gens qui ont quitté pendant la troisième heure.
Ah oui.
Ils ont manqué
un
super main event. Mais c'est vrai que c'est ça aussi, finalement, c'était une bonne surprise, mais du coup, effectivement, alors je dis pas que moi j'aurais quitté mon siège à ce moment-là, mais bon, au début, tu dis qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce menevon là, on a un petit peu déjà vu cette configuration, et finalement, ils ont délivré, donc tant pis pour eux. Hein. Catch Up, c'est votre podcast qui résume et analyse les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver évidemment chaque semaine. Pour ça, il suffit de s'abonner en audio sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Vous n'avez aucune raison de nous manquer, on est partout. Sur YouTube également, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, c'est Catchup, CDC. On a évidemment un Discord pour venir tchatcher, discuter. N'hésitez pas également à partager ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire sur la vidéo YouTube. Mettez-nous des petits pouces. N'hésitez pas également à nous mettre des petites étoiles ou des petits commentaires sur Apple Podcast, par exemple. Ça nous aide un petit peu à monter en visibilité. Parlez de catch-up autour de vous, écoutez dans la voiture, mettez à fond quand vous êtes coincé au feu rouge. Moi, je le fais, mais bon, après, les gens me regardent bizarre. Ils m'attaquent avec des kendo sticks. Tu vas avancer, oui. Bon, tonton, je te souhaite une bonne fin de journée à toi.
Tout pareil, Alpatron, c'était un plaisir de faire cette review d'Euro avec toi.
Plaisir partagé. On se donne rendez-vous très bientôt pour Friday Night SmackDown. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut, Alpatron. Salut, peuple de catcheurs. Il a manqué des mariachis dans ce main event.
J'imagine les mecs qui arrivent avec leur guitare pendant que les autres sont en train de passer à tabac, tuer un homme en direct.